With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast généraliste de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes déjà diffusés. Aujourd'hui, on va évoquer les troubles mentaux et les réseaux sociaux à l'occasion des journées de la schizophrénie. Tout d'abord, qu'est-ce que ce trouble mental détecté le plus souvent chez les jeunes entre 15 et 25 ans? Pourquoi faut-il faire attention à la tendance de l'autodiagnostic des maladies mentales sur les réseaux sociaux ? On va en parler avec Jasmina Mallet, médecin psychiatre à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, chercheuse dans le domaine de la schizophrénie, praticien hospitalier responsable d'un centre expert sur les troubles schizophréniques. Pour savoir de quoi on parle, commençons par la définition de la schizophrénie par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM. La schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique caractérisée par un ensemble de symptômes très variables. Les symptômes les plus impressionnants, ce sont les délires et les hallucinations, mais les symptômes les plus invalidants sont le retrait social, les difficultés cognitives. Jasmina Mallet, bonjour. Cette définition de la schizophrénie, c'est tout bon ?
C'est assez exact. C'est un ensemble de ces symptômes-là, délire, hallucination, ce qu'on appelle les symptômes positifs qui sont au-delà de ce qui devrait être normal. Et les retraits, par exemple, c'est le retrait social dont vous parlez, la perte de motivation, la capacité à ressentir des émotions. Ça fait partie des symptômes négatifs, qui est le deuxième grand groupe de symptômes, des choses qu'on a perdues, on va dire, avec la maladie. Et les troubles cognitifs aussi, vous avez mentionné, je crois. Donc, une difficulté à organiser sa pensée et puis à se concentrer, par exemple, dans les tâches quotidiennes, à suivre ses études et à mener à bien un travail, en fait.
Et c'est une maladie qui touche 1% de la totalité des Français, soit environ 660 000 personnes. C'est une maladie qui se déclare plutôt jeune.
C'est plutôt jeune, puisqu'on est dans 85% des cas, un diagnostic qui est porté entre 15 ans et 25 ans, avec parfois des diagnostics plus précoces, dans le cas des schizophrénies à début précoce, donc ça peut même être avant 13 ans, mais c'est très très rare, et des schizophrénies à début tardif, donc au-delà de l'âge de 30 ans, mais vraiment 85% des cas, c'est entre 15 ans et 25 ans.
Je reviens sur l'âge de détection des schizophrènes entre 15 et 25 ans. Comment on peut expliquer que ce soit à cet âge-là qu'on détecte la maladie ?
Juste, on dit plus du coup les schizophrènes, je le dis, parce que comme on est justement, je profite de cette tribune, on dit des sujets avec une schizophrénie, comme on faisait pour le cancer, on dit pas des cancéreux, on dit des personnes avec cancer ou... Voilà, donc il faut faire attention
c'est
à ne
bien
plus
de
utiliser
dire...
ce terme, de dire des schizophrènes, vraiment, non.
Donc des personnes malades de schizophrénie.
Ah oui, voilà, ouais, avec une schizophrénie, enfin voilà. En tout cas, les personnes concernées ne veulent pas qu'on utilise ce terme-là pour eux.
Qui est stigmatisant.
Qui est assez stigmatisant, en fait.
Okay.
Et ils ne se définissent pas à leur maladie, évidemment. Donc du coup, la question, c'est pourquoi c'est entre 15 et 25 ans ? Ben, c'est parce que notre cerveau, donc c'est une maladie quand même qui est neuro-psychiatrique, donc c'est quelque chose, il y a des facteurs, on a vu, génétiques, mais ça touche au développement du cerveau, en fait. Et donc notre cerveau est très compliqué et il n'arrête pas de se développer ça se développe en permanence, mais on va dire le gros développement du cerveau, c'est jusque 25 ans en gros. Donc comme c'est une maladie qui touche le cerveau, tant que ce cerveau n'est pas vraiment arrivé à maturation, donc on va dire un peu terminé, ce cerveau est très fragile et subit le stress de différents facteurs, donc comme on a vu les toxiques, le stress... les traumatismes, des choses comme ça. Donc c'est une maladie, il y a une grosse phase de développement entre 15 et 25 ans au niveau du cerveau, de maturation, et donc il va être très fragile et sensible à l'impact de différents facteurs environnementaux.
On ne sait pas forcément les raisons de cette maladie. Elle pourrait être due à la fois à une fragilité biologique, mais aussi à un stress environnemental.
C'est une des maladies les plus complexes qu'on peut étudier en psychiatrie. On appelle ça une maladie multifactorielle, puisqu'il y a plusieurs facteurs, et il y a une petite part génétique, mais évidemment, il n'y a pas du tout de fatalité, de déterminisme génétique. Il n'y a pas un gène de la schizophrénie, mais à peu près une centaine de gènes au moins qui sont impliqués à des degrés vraiment... mineure, mais c'est l'ensemble de ces facteurs génétiques et leur interaction avec des facteurs environnementaux de stress qui vont mener à cette maladie. Donc le facteur environnemental de stress, ça peut être la consommation de substances, notamment le cannabis par exemple, ça a été montré. Ça peut être aussi un stress psychologique, des traumatismes dans l'enfance, c'est des stress très variés en fait. Les recherches sont encore en cours en fait, on est en train d'identifier, mais c'est plein de petits facteurs avec vraiment une petite part dans la survenue de la maladie. Il n'y a pas une grande cause pour cette maladie en fait.
C'est une maladie qui peut être prise en charge, et quelle est-elle ?
Déjà, il faut porter le diagnostic. Une fois que le diagnostic il est posé, il y a une prise en charge qui est multiple en fait, qui n'est pas seulement médicamenteuse, mais qui est psychosociale aussi, avec un accompagnement psychologique, une aide un peu pour la réinsertion socio-professionnelle. Et puis le côté médicaments, il est là aussi avec des médicaments qui vont agir au niveau du cerveau, donc les antipsychotiques qui agissent sur certains récepteurs qui sont perturbés dans la schizophrénie. Et puis, il y a l'autre prise en charge. Donc, j'ai dit, effectivement, il y a la thérapie. Donc, l'approche thérapeutique, ça peut être les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, ça, c'est un peu compliqué, mais c'est pour dire qu'on fait de l'accompagnement sur la façon de penser, mise en œuvre de certaines stratégies pour réduire le stress, parce qu'on sait que le stress ça va être à l'origine des rechutes, par exemple. Plus la prise en charge est précoce, en fait, plus il y a une bonne chance, en fait, de rémission, avec la possibilité de reprendre ses études et de mener une vie normale.
On peut vivre bien avec cette maladie.
Je donne un message d'espoir qui est raisonnable, hein, mais il y a des patients, il y a des personnes qui ont des troubles plus difficiles que d'autres. Mais avec une prise en charge précoce, un diagnostic qui est porté dès le début de la maladie, et une prise en charge adaptée justement à cette phase-là, oui, on peut avoir dans 60% des personnes à 2 ans, elles ont un retour à la vie sociale qui est acceptable et qui est plutôt bien, en fait, avec une bonne qualité de vie. Ça implique une prise en charge médicamenteuse quand même la plupart du temps. Hein.
Vous êtes ici aujourd'hui pour alerter sur un phénomène qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qui sont fantastiques parce qu'on peut raconter autant une vie rêvée sous les palmiers, mais aussi on peut raconter la maladie, des maladies, notamment des maladies mentales. Sauf que vous alertez sur un phénomène, l'autodiagnostic de ces maladies mentales sur les réseaux sociaux.
L'autodiagnostic, on s'est rendu compte de ça avec un ensemble de collègues, mais aussi avec l'association Positive Minders, avec laquelle on travaille, avec la Fondation Fondamentale. Enfin, plusieurs groupes et associations se sont rendus compte qu'il y avait une tendance à l'autodiagnostic des personnes qui viennent nous voir à l'hôpital ou dans les centres d'expertise, avec souvent des influenceurs sur TikTok ou sur Instagram qui se filment, qui proposent des clés pour s'autodiagnostiquer. C'est pas forcément dans le domaine de la schizophrénie, mais c'est plus particulièrement dans le cas de l'autisme, du trouble attentionnel avec hyperactivité ou du trouble bipolaire. Donc on a un peu une tendance à avoir des vidéos comme ça, où les personnes vont lister certains symptômes en disant voilà, vous avez ceci, vous avez cela, faites comme moi, vous avez probablement ce diagnostic-là. Et puis en fait, le problème, c'est qu'effectivement, ils sont suivis par beaucoup de followers, comme on dit, et que ces personnes-là ne vont pas se tourner vers l'aide médicale dont ils ont besoin, mais vont peut-être s'autodiagnostiquer. Peut-être de façon fausse d'ailleurs, puisque c'est pas forcément. Il faut un médecin quand même pour porter ces diagnostics. Et du coup, ils vont pas accéder à une prise en charge adaptée au bon moment. En fait, ça va peut-être même retarder un diagnostic et une prise en charge efficace, même s'ils ont ces troubles-là et même si l'autodiagnostic est en fait réel. Hein, mais
c'est plus fun d'une certaine manière d'être bipolaire que d'être d'avoir une bipolarité. J'essaie de faire attention à ce que je dis, plutôt qu'une schizophrénie.
Oui, bah effectivement, il y a encore une hiérarchie de la coolitude des maladies psychiatriques, malheureusement. Mais effectivement, c'est très rare que j'ai une personne moi qui vienne me voir en me disant je suis persuadée que j'ai une schizophrénie, alors que dans le centre expert bipolaire qui est à côté de mon bureau, ça va être plus souvent le cas en fait. Et pareil pour l'autisme à haut niveau, qui est un peu plus, qui est plus hype, on va dire. Mais les gens s'autodiagnostiquent plus, même on le voit sur TikTok et Instagram. Si vous tapez self-diagnostic, autodiagnostic autisme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de posts, en fait. Hein, parce que c'est plus à la mode. On a l'impression que c'est moins stigmatisé aussi que la schizophrénie, en fait. La schizophrénie fait peur encore, et notamment parce qu'elle est le nom est mal utilisé dans les médias, dans les journaux, même des journaux de grande écoute, même dans des journaux de très bon niveau, on utilise le terme schizophrénie à tort et à travers, en fait.
Pourquoi on l'utilise à tort et à travers, ou au lieu de quoi on devrait utiliser ?
Schizophrénie, souvent, les gens confondent avec le dédoublement de la personnalité ou avec comportement bizarre. Et donc, en fait, on va dire, oui, c'est complètement schizophrène ce qu'il dit. Oui, il a un comportement schizophrène, alors que ça n'a rien à voir du tout avec la maladie telle qu'elle est en réalité. Hein, ça... Donc, ce n'est pas à dire tout et son contraire que d'avoir une schizophrénie, loin de là. Puis aussi, il est utilisé de façon inadaptée quand on a des gens qui sont violents ou agressifs ou avec des comportements antisociaux qui font peur. Et donc là, on va dire, oui, c'est un tueur fou schizophrène. C'est des termes qu'on entend et qu'on entend encore à la télé, en fait, et qui sont complètement faux, puisque les personnes avec une schizophrénie sont pas plus violentes du tout que la personne en population générale. Donc, et ça a été montré. Voilà. Donc ce terme-là est encore stigmatisé, et donc il y a peu de gens qui viennent en me disant « je suis persuadée que j'ai une schizophrénie ». En tout cas, c'est très rare, ça arrive, mais c'est très rare.
J'ai 17 ans, je suis derrière mes réseaux sociaux, je suis une fan de TikTok et d'Instagram. Je sens que je ne vais pas forcément très bien, mais je cherche un peu d'informations, et c'est vrai que je suis très intéressée par le contenu de tel influenceur ou de telle influenceuse. C'est parce que je ne sais pas vraiment ce que j'ai que je me porte vers eux. Qu'est-ce que je peux faire, moi qui ai 17 ans et que je sais que ça ne va pas forcément très bien.
Ce qui serait bien, c'est que ce ne soit pas forcément les réseaux sociaux qui soient le premier endroit où on se réfugie. Il y a longtemps, mais ça se fait encore maintenant, hein, il y a les infirmières scolaires en fait, dans les écoles. Donc il ne faut pas hésiter à en parler aussi, si on a peur d'en parler dans sa famille. Parce que l'idée, ça serait quand même d'en parler avec ses proches. En fait, hein. C'est l'entourage familial, normalement, il est là pour écouter et apporter un petit peu de soutien. Et si ça, c'est difficile, il y a le médecin traitant, le médecin de famille, et puis il y a l'infirmière scolaire ou les équipes à l'école aussi qui connaissent bien ces problèmes-là aussi, qui sont formés quand même. Et de plus en plus, on met en place aussi des programmes un peu de prévention, de dépistage, du stress, des problèmes de maladie mentale, etc. chez les jeunes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter ou à aller voir l'infirmière en milieu scolaire si on n'est pas à l'aise avec l'entourage proche. Ensuite, plutôt que d'aller sur Instagram ou TikTok, il y a des sites internet qui sont bien faits. Et notamment, il y en a un qui s'appelle santépsyjeune.fr et qui est porté par les associations, notamment le réseau Transition aussi, et puis donc des professionnels, qui va pouvoir aider les jeunes, en fait, les adolescents et les moins jeunes aussi, en fait, finalement, à avoir des clés pour comprendre ce qui se passe sans que ça soit TikTok et Instagram, en fait.
Idem, je suis la meilleure amie, le meilleur ami de cette personne qui se sent pas forcément très bien. Qu'est-ce que je fais aussi ?
Alors, le meilleur ami de cette personne, bah, encore une fois, je pense que le mieux, c'est quand même d'en parler à son entourage. Normalement, il y a quand même des personnes bienveillantes autour, donc les parents de cette personne, et puis ses propres parents, et puis toujours encore l'école, en fait, les enseignants. Je pense que l'école a vraiment un rôle à jouer important. Dans le système, enfin au collège, au lycée ou même à la fac, il y a des services en fait, d'accueil et d'écoute. En fait. Il ne faut pas hésiter à aller en parler. Et, donc cette personne peut aussi avoir des clés pour aider son ami. Il ne faut pas que ça repose sur les épaules de la copine ou du copain parce que c'est un petit peu dur. Et il y a aussi les services, même dans les universités, hein, il y a les bureaux d'aide psychologique universitaire, les BAPU. Normalement, tout ça est bien mis en place, mais encore faut-il savoir que ça existe.
Et enfin, je suis une super influenceuse. J'ai plein de followers sur mes réseaux sociaux. J'ai un trouble mental. Je m'explique sur ce trouble mental et je diffuse. Qu'est-ce que vous pourriez me dire, moi qui suis une super influenceuse et qui ai plein de followers ?
Bah, bravo déjà, c'est super. C'est bien. Bon, après, on ne vit pas que par les réseaux sociaux. Hein, mais en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que bah, c'est bien de parler de son trouble. Et en fait, c'est aussi une grande aide et Et c'est bien, en fait, de déstigmatiser les troubles psychiatriques, de libérer la parole, parce qu'il y a 10-15 ans, c'était, la plupart des troubles mentaux, c'était encore un peu stigmatisé. Donc, on va vers une libération de la parole par rapport à ça, notamment, je pense aussi aux idées suicidaires et tout le mouvement qu'il y a eu avec Stromae, par exemple. Donc ça, c'est bien que les influenceurs prennent la parole là-dessus, mais il faut juste toujours rappeler que ce n'est pas des professionnels de santé et qu'effectivement, si les personnes se reconnaissent en elles, il faut qu'elles aillent consulter un médecin, un psychiatre ou un psychologue, ou enfin, en tout cas, en parler autour d'eux et que ce ne soit pas juste des messages, des échanges et des demandes de conseils sur Instagram ou TikTok, parce que ce n'est pas eux qui ont le... Finalement, c'est une responsabilité assez lourde aussi pour ces influenceurs, en fait.
On va rappeler le nom du site internet qui est ouvert le 22 mars 2022.
Santépsyjeune au pluriel.fr, voilà.
Eh bien, on va le redire encore.
Donc, c'est un site d'information en santé mentale dédié à la prévention, détection et l'intervention la plus précoce possible des troubles psychiques émergents, voilà.
Merci à Jasmine Amalet pour cet entretien. Rappelons que dans le cadre des journées de la schizophrénie, vous pouvez retrouver des actions de sensibilisation et de prévention sur les troubles psychiques par l'association Positive Minders. Minute Papillon, c'est le podcast généraliste de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour nous écrire, une seule adresse, audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. À bientôt.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.